Ainsi donc, chers amis, deux demandes sont exprimées dans les deux derniers textes qui viennent d'être proclamés. De saint Paul à Timothée, ravive en toi le don de Dieu. Et de ses apôtres à Jésus, augmente en nous la foi. Leur point commun ? Il me semble qu'il s'agit chaque fois d'une demande pressante, instante, je dirais presque urgente. Paul à Timothée, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu. Les apôtres à Jésus, augmente en nous la foi. C'est toujours un magnifique cadeau du Seigneur et de son Église, et quand nous percevons comme Timothée, et quand nous lançons, comme les apôtres, un appel vital pour notre foi de chrétien et chrétienne. Mais pour que cela arrive, laissons-nous aujourd'hui l'Esprit-Saint parler à l'oreille de notre cœur, laissons-le inspirer la bouche de notre cœur. Pas de demande sainte sans une liberté humaine en œuvre, et pas de liberté sainte et vraie sans la grâce de l'amour divin qui la stimule et la guide. L'autre point commun, c'est que dans les deux cas, un âge de la vie parle à un autre. Quand il écrit cette lettre à Timothée, Paul est devenu un vieillard pour l'époque. Alors que Timothée est un homme jeune, que l'apôtre a connu adolescent ou jeune homme. Jésus, certes, n'était peut-être pas plus âgé que tous les apôtres, du moins d'un certain nombre comme Jean, mais c'est lui qui les avait appelés, qui les enseignait et les formait dans leur vie spirituelle. Il le reconnaissait donc comme un frère aîné dans la foi, sinon un père. Et il est beau, et admirable même, je crois, d'entendre ici ces voix qui se croisent, un ancien exhortant un de ses élèves, des élèves réclamant quelque chose de leur maître. À l'âge où me voici parvenu, je suis devenu très sensible, bien sûr, à la seconde situation. Je m'émerveille du désir de progresser que manifestent des jeunes adultes auprès de moi et des prêtres de ma génération. Je m'émerveille encore plus de la confiance qu'ils nous témoignent à exprimer désirs, questions, joie, peine et misère, et d'une sainteté certaine qui habite leur cœur et leur vie, et qui ne peuvent que m'encourager dans ma propre vie chrétienne. De tout cela, je rends grâce à Dieu, car ce n'est pas seulement beau et admirable, c'est bon, c'est très bon, pour la vie de l'Église tout entière, de toute communauté paroissiale, comme ici par exemple, qui essaie d'être avant tout fraternelle et missionnaire. Ma longue fréquentation à présent des pères de l'Église me nourrit beaucoup dans cette relation spirituelle entre chrétiens, où peut se développer une entraide, une formation mutuelle au meilleur de nous-mêmes. En effet, tout autant qu'à prêcher à de grandes assemblées, la plupart des pères de l'Église ont passé une bonne partie de leur jour et de leur nuit à répondre à des sollicitations personnelles de frères et sœurs, à les accompagner ainsi, humainement et spirituellement, au jour le jour et de jour en jour. Là, tout particulièrement dans ce type de ministère, je mesure toute la force et la vérité du mot de saint Augustin, que j'adapte ici à mon état de vie. Avec vous, je suis chrétien. Pour vous, je suis prêtre. Mais en ajoutant, ce qui est le plus souvent oublié, qu'Augustin fait cette confidence en public en précisant bien que c'est grâce à cette fraternité baptismale, être chrétien avec vous, qu'il peut exercer sans découragement sa paternité de ministre ordonné, être évêque pour vous. Je vous renvoie ainsi au premier et aux quatrièmes fondamentaux qui ouvrent aux orientations synodales pour nos communautés paroissiales. Développer une conscience plus vive de notre vocation baptismale, commune à tous, laïcs, évêques, prêtres et diacres, et vivre ainsi la fraternité concrète, notamment des petites fraternités de proximité ouvertes à tous. C'est en effet à cette conscience même que Paul appelle son jeune frère Timothée. Bien-aimé, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Geste de Paul, l'imposition de ses mains sur la tête de Timothée ne peut pas, historiquement parlant, être évidemment identifiée à une ordination de diacre ou de prêtre comme de nos jours. Mais même si Timothée était déjà baptisé, ce geste a partie liée avec le baptême et la confirmation, comme des signes d'un envoi missionnaire de tous les fidèles du Christ. Et il a partie liée avec le pardon divin, dont le sacrement, vous le savez, comporte le geste d'étendre une main ou les deux vers le pénitent. Vous noterez que Paul dit bien « ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains ». Il ne dit pas « le don » ou « les dons que tu as reçus de naissance » ou « grâce à ton éducation ». Il s'agit du don gratuit de Dieu et un don manifesté par la prière et un geste d'un frère dans la foi, d'un autre membre de l'Église. Je crois que cela ne peut que nous encourager les uns les autres à nourrir notre foi, notamment par les sacrements. En particulier, ces deux sacrements pour la route que sont l'Eucharistie et le pardon. Quant à la démarche des apôtres auprès de Jésus, elle nous instruit pour nous-mêmes, personnellement, mais aussi comme membres du corps du Christ, donc de communautés fraternelles concrètes, paroissiales, d'aumôneries de jeunes, de mouvements d'église, etc., qui soient accueillantes et rayonnantes. Car les apôtres demandent à Jésus « augmente en nous la foi ». On est loin, alléluia, de cet autre jour où les disciples se disputaient pour savoir lequel d'entre eux était « the best one ». Ils sont même allés plus loin dans leur désir que lorsqu'ils demandaient « apprends-nous à prier ». Car peut-on bien prier sans que la prière soit portée et nourrie par une foi consciente et intelligente ? La réponse du Christ est de prime abord plutôt frustrante, car il ne répond pas à leurs questions. Les apôtres désiraient que Jésus augmente lui-même leur foi, et il ne le fait pas. Ils brûlaient d'une réponse qui laisse loin derrière eux leur passé d'homme de peu de foi. Et Jésus se projette dans une hypothèse, reconnaissons-le, assez loufoque. Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer. Et il vous aurait obéi. Sous-entendu apparemment, mais comme vous n'avez pas cette foi-là, jamais vous ne réussirez à boiser le moindre océan. Outre qu'une telle opération serait bien peu écologique, puisqu'elle accélérerait la dramatique déforestation de certains continents, on ne voit pas de quelle utilité pratique pour les apôtres aurait été ce geste de foi. À moins que Jésus n'ait ici usé sciemment de loufoquerie pour nous appeler à aller plus loin que le bout de notre foi. Car après tout, lui-même n'a jamais, que je sache, entrepris de boiser la Méditerranée. Ce n'est donc pas ce qu'il nous appelle à faire, car la foi la plus puissante est une affaire d'amour et d'humilité. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Encore une application de la parabole d'il y a 2 semaines. Aimer pour aimer, autant répondre à fond à cet amour-là qui est de Dieu lui-même. Au reste, les apôtres avaient-ils des domestiques ? Possédaient-ils des champs ou des bêtes pour les labourer ? Non. Mais ils ont répondu à l'appel de servir l'amour en servant le serviteur. En cela, ils, et nous avec eux, j'espère bien, soyons de simples serviteurs, ce qui ne veut pas dire du tout de médiocres serviteurs, pourvu que nous unissions en nous la condition de serviteurs de Dieu et d'amis de son Fils, qu'il a voulu que nous devenions. Accueillons, comme Timothée, l'esprit de force et d'amour qui est dans le Christ Jésus lui-même et qui fait de nous déjà des ressuscités, une immense forêt de vivants pour l'éternité. Amen.